élu en 2018 meilleure œuvre de prose des 100 dernières années par les auditeurs de la chaîne publique culturelle Vltava. Le roman La guerre des salamandres en tchèque Valka Smloky de Karel Čapek est aussi drôle que perturbant. Si cette histoire de prise de pouvoir totalitaire par des salamandres marines géantes a déjà presque un siècle, nous verrons avec Anaïs Rimbaud qu'elle est loin d'être démodée et que sa notoriété a dépassé les frontières. Pour cela, nous donnerons la parole à des professionnels du monde du théâtre.
Les livres tchèques incontournables.
Ja sakra. Takoví ještěrkové jsou tam, pane Bondy.
A kde myslíte?
Na jednom takovém ostrově. To já nemůžu jmenovat, chlapče, to je moc veliký secret. Ale jsou to moc milí a hodný zvířata, ty ještěrkové. Já je znám, chlapče. A že by to byli čerti, to je lež. Ale, to mě můžete věřit.
Snad byste se...
No, ono jich je tam několik tisíc, ale jsou to ještěrkové moc vzácné.
Conte philosophique entre science-fiction et politique-fiction publié pour la première fois en 1935-1936, La guerre des salamandres raconte tout d'abord la découverte dans l'océan Pacifique de créatures semblables aux salamandres par le capitaine Van Torre, un marin de la trempe du capitaine Haddock. Van Torre établit alors un système d'échange qui consiste à fournir aux salamandres des couteaux pour tuer les requins qui les déciment. En contrepartie, les salamandres récoltent des perles et les remettent au capitaine Van Torre. Celui-ci invite par la suite une riche connaissance, M. Bondy, à investir dans le transport des salamandres entre différentes îles pour récolter encore plus de perles. Après la mort de Van Torre, la compagnie de Bondy abandonne le marché des perles pour vendre les salamandres comme main-d'œuvre. C'est ce que détaille la deuxième partie du roman, conçu comme un genre de revue de presse d'articles parus dans le monde entier à propos des salamandres et présentant ces animaux d'un point de vue scientifique, commercial et éthique. Cependant, les salamandres évoluent rapidement pour finalement menacer les humains, en voulant détruire les continents pour créer plus de territoires sous-marins. Les humains sont encouragés à céder eux-mêmes leurs terres à la demande de chiffres salamandres. Mais ils refusent, ce qui déclenche finalement la guerre des salamandres, dont différents incidents et batailles sont relatés dans la troisième partie du livre. Les humains en sortant toujours perdants, le livre se termine sur un bouleversement complet de l'ordre mondial et une vision apocalyptique du monde. Pavel Janáček, de l'Académie tchèque des sciences, estime que La guerre des salamandres est le seul des livres de Karel Čapek qui aurait pu permettre à l'auteur d'obtenir le prix Nobel de littérature, pour lequel il a été proposé 7 fois entre 1932 et 1938. S'il n'a au final jamais été récompensé, c'est sans doute en partie à cause de sa critique trop farouche du national-socialisme. Et c'est pour cette même raison que La guerre des salamandres a été peu diffusée à l'époque de sa parution en tchèque. Ainsi, les lecteurs francophones n'ont pu la découvrir qu'en 1960, grâce à la traduction de Claudia Ancelot. Une traduction qui a d'ailleurs récemment fait l'objet d'une réédition, en 2012, aux éditions La Baconnière. Cette réédition permet ainsi aux Français de redécouvrir Karel Čapek, auteur dont ils ont peut-être déjà pu lire le roman anti-utopique La fabrique d'absolu, le récit de voyage Voyage vers le Nord, le livre pour enfants Dashenka ou la vie d'un bébé chien, ou encore la pièce de théâtre RUR, entre autres nombreuses œuvres traduites en français. Robin Renucci, le directeur du Centre dramatique national Les Tréteaux de France, a choisi de mettre en scène La guerre des salamandres dans le cadre d'un cycle de pièces de théâtre sur le thème des ressources, de la richesse et de la production de celles-ci. Sa troupe joue l'œuvre de Čapek sur tout le territoire français, y compris d'outre-mer, depuis 2018.
La guerre des salamandres témoigne de l'esprit visionnaire d'un auteur en 1936 qui prévoit ce que deviendra la planète d'un point de vue écologique, géopolitique, tout cela avec un univers de science-fiction. On est tellement étayé, puisqu'il donne des détails très précis d'inondations, d'incendies, de cataclysmes, disons, écologiques, inclus dans l'œuvre même de 1936, la question de la prolétarisation de ces petits animaux que sont les salamandres, qui viennent remplacer le travail de l'homme, et puis ensuite qui vont se révolter contre l'homme parce qu'elles auront réussi à se fédérer, à se syndiquer, etc. Je trouve que c'est une pièce, évidemment, qui parle de la finitude de la Terre et de l'esprit visionnaire dont on a besoin pour pouvoir prendre des décisions, ou en tout cas se conscientiser sur l'avenir de notre planète.
Abordant des thèmes très divers tels que l'appât du gain, le nationalisme, le racisme, le capitalisme, l'exploitation d'autrui et de la nature, le monde de la presse, la mondialisation économique, ce roman dystopique offre de nombreux angles de mise en scène. Près de 80 années après sa parution initiale, David Kosciak a adapté La guerre des salamandres pour le théâtre pragois D21.
Il y a des livres qui offrent directement une situation dramatique, pour lesquels j'aime dire que l'adaptation est en grande partie une affaire de copier-coller. Ce n'est pas le cas de La guerre des salamandres. Le livre offre bien des images de théâtre, mais pour ce qui est du thème, il m'a fallu l'appréhender. En tant qu'auteur, qui écrit ses propres textes, ce qui était intéressant pour moi avec ce livre, c'est qu'il m'a fallu adopter une position.
La position qu'il a finalement choisie, c'est l'exploitation et la manipulation des salamandres, qui incarnent l'autre, l'étranger, jusqu'au moment où la situation se retourne en faveur des victimes. En plus d'apporter un peu de légèreté à ce thème, la forme de cabaret choisie pour le théâtre D21 semblait parfaitement adaptée au fait que le livre lui-même se compose de différents styles littéraires, comme l'explique le metteur en scène Jakub Schmidt.
Je pense que la diversité des formes littéraires du livre, la forme journalistique, des pamphlets, une scène du quotidien, correspondait bien au cabaret. On peut y faire figurer un magicien, une chanson, du comique de scène. Mais oui, c'est aussi une façon de raconter avec un peu de détachement, un peu d'humour.
L'adaptation qu'Evelyne Love a réalisée pour les Tréteaux de France est radicalement différente.
Je savais qu'en France, il y a eu plusieurs tentatives d'adaptation qui ont échoué à cause des sens multiples de cette œuvre. On peut en faire une réflexion sur le nazisme, une réflexion sur le totalitarisme, sur les milieux scientifiques. Les pistes sont très nombreuses sur la langue. Bon, moi j'ai choisi volontairement, ça a été un peu déchirant parce qu'il fallait faire des choix, j'ai choisi l'écologie, qui me paraissait le thème le plus prémonitoire et étonnant par rapport à l'époque de Tchapek, et qui aujourd'hui explose. J'ai tiré le fil, plutôt le fil écologique, c'est-à-dire de notre rapport à la nature et aux animaux. Quand on exploite à mort la nature, eh bien, ça fait un effet boomerang et ça nous retombe sur le nez. Dans notre version, dans notre adaptation, les costumes sont des années 30, mais tout le propos est sur l'écologie, les lanceurs d'alerte, le dérèglement de la nature, comment les journalistes sont à l'avant-garde en tant que lanceurs d'alerte de la conscientisation de la société. C'est cet aspect-là que j'ai privilégié dans l'œuvre. Mmh. Et ça marche très bien.
Si le message de Karel Čapek, déjà alarmiste en 1936, est encore plus pressant en 2020, le ton de l'œuvre est loin d'être grave. Evelyne Love a particulièrement apprécié la glose de l'auteur, son analyse du langage et de l'emprisonnement par les mots. Dans son adaptation pour les Tréteaux de France, elle a souhaité conserver le discours plein d'ironie de Čapek et elle a par exemple choisi de rendre les rapports de faux congrès scientifiques et les déclarations politiques extrêmement amusantes et très probables du roman par des interventions régulières de journalistes qui invitent des personnalités politiques ou scientifiques pour parler de la problématique des salamandres avec des mots savants presque clownesques. Quant au cabaret des salamandres du théâtre D21, David Kosciak explique qu'il a choisi d'attribuer la langue originale du livre de Čapek aux salamandres, alors que les autres personnages ont un parler plus contemporain. La confrontation de ces deux niveaux de langue est tout bonnement hilarante, comme dans le numéro mettant en scène un couple de Tchèques en vacances au bord de la mer, surpris dans leur pique-nique d'escalope panée par l'arrivée d'une salamandre ayant appris le tchèque dans un manuel.
Byl jsem tak směl, nemohl jsem odolat, i slyšet poprvé v životě český hovor. Byl byste tak laskav a řekl mi, co jest nového ve stověžaté matičce Praze.
A tak všechno přistane,
no, naštěstí.
Jak radostné jsou to zvěsti.
Outre l'humour souvent grinçant et autodérisoire, les références à la culture tchèque et les allusions parfois stéréotypées sont nombreuses. Avec l'exclamation « Dieu merci, nous n'avons pas de littoral », répétée à plusieurs reprises dans le cabaret du théâtre D21, David Kostiak a par exemple voulu souligner l'absence de bord de mer de la République tchèque et la frustration que cela représente pour beaucoup de Tchèques, tout en faisant le parallèle avec l'actualité en Europe.
Mám pocit, že se k tomu jako vztahujeme strašně často.
C'est quelque chose auquel on fait souvent référence, si seulement on avait la mer. Mais alors qu'on parle actuellement beaucoup de crise migratoire, qu'on s'imagine ces bateaux, tout ce méconnu qui nous arrive par les flots, il m'a semblé intéressant qu'enfin on se rende compte de l'intérêt de ne pas avoir de mer.
Mais la tranquillité des Tchèques semble malgré tout menacée, car le roman s'achève sur l'apparition d'une salamandre dans la rivière Vltava. Pour Robin Renucci, le message que Karel Čapek a voulu passer en écrivant La guerre des salamandres est clair.
Il dit que les totalitarismes sont toujours aux aguets du populisme et que la solution, c'est toujours la question de l'intérêt général, de la question du discernement et de la non-exploitation de l'homme par l'homme, au fond. Il n'a pas de vision absolue des camps de concentration, par exemple, mais il sait très bien qu'un pouvoir totalitaire est en train d'arriver et que c'est aussi basé toujours sur la famine, sur la misère, sur l'exclusion, le rejet de l'autre, le pouvoir qui se nourrit du subalterne et de l'affaiblissement de certains au profit de ceux qui détiennent ce pouvoir, etc. Donc, et c'est surtout un des enjeux financiers, toujours banquiers, médiatique, et il nomme précisément ce qu'est la télévision, le cinéma, l'image, le pouvoir de l'image, la presse. Il nous donne tous les éléments du capitalisme court-termiste, et l'antidote serait une capacité à être dans un intérêt général, à être collectif, et non pas dans l'intérêt privé, de la démesure du profit personnel.
En dépit de l'ancrage géopolitique du roman dans l'époque où il a été écrit, celle précédant la Seconde Guerre mondiale, le message humaniste de Karel Čapek est donc toujours d'actualité. C'est pour cette raison que les Tréteaux de France prolongent chaque représentation par un débat visant à donner au public la possibilité d'exprimer leur esprit critique. Une approche qui n'aurait certainement pas déplu aux journalistes qu'était aussi Čapek.